Je me souviens.
Je me rappelle. Tu te souviens ?
Elle se rappelle.
Elle se souvient.
Il se rappelle.
Ça a été comme une lumière dans la nuit, un flash. Nous avons tous vécu un événement marquant qui a été un accélérateur de vie.
Je me souviens, je me rappelle.
Bonjour amis auditeurs. Eh bien aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Alain Béal. Alain Béal, vous étiez menuisier précédemment. Et puis, je vous parlais d'une période ancienne, c'est-à-dire vous aviez 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous ?
Eh bien, à l'âge de 20 ans, j'ai fait comme beaucoup de jeunes Français. Donc, j'ai été appelé pour faire mon service militaire. Je me suis retrouvé à Belfort, où j'ai fait quelques mois de classe, c'est-à-dire 3 mois et demi. Et par la suite, ben, comme beaucoup d'appelés, je me suis retrouvé sur la terre algérienne, dans un département français où les gens habitant ce pays voulaient leur indépendance.
Alors, c'était à quel moment de cette guerre d'Algérie que vous vous êtes retrouvé sur le sol algérien ?
Je me suis retrouvé sur le sol algérien à la fin des événements, puisque j'ai vu l'armistice du 19 mars 1962 sur place. Donc, étant appelé, je me suis retrouvé dans le désert.
Alors, vous avez vécu une guerre d'Algérie qui n'est pas celle de tout le monde.
Alors, j'ai vécu une guerre d'Algérie qui n'est pas celle de tout le monde, puisque donc, je me suis retrouvé sur la zone sud algérienne, côté Maroc, et donc en dessous de Colombéchard, à Bidon 2. À côté de Kenata, et donc je me suis retrouvé au casernement étant menuisier donc dans le bâtiment, et j'ai dirigé le casernement de 50 personnes environ pendant 17 mois.
C'est-à-dire que vous exerciez votre profession ?
Oui, j'exerçais le métier de menuisier. L'armée avait réquisitionné des bâtiments des HSO Houillères du Sud-Oranais. Et donc, il y avait un atelier de menuiserie, de mécanique, enfin, tous les métiers possibles. Et comme c'était le casernement, donc, disons, sous mes ordres centraux, puisque mon patron, c'était le commandant-major du régiment, et j'avais des menuisiers, des plâtriers, des électriciens, des peintres, des frigoristes surtout, et des maçons. Et donc, on construisait dans l'Amada, dans le désert, disons, des fortins qui se voulaient être à l'abri des tirs de mortier depuis le Maroc, en tir plongeant. Et on armait ces casemates, si on peut appeler ça des casemates, avec des règles de chemin de fer que les Allemands avaient laissées pendant la guerre de 39-40, puisqu'ils étaient quand même descendus très bas dans l'Algérie et voulaient rejoindre le bas du Maroc depuis Oran. Mais ça s'est arrêté avant et il y avait un stock faramineux de rails de chemin de fer qui nous servait à armer le tour de ces casemates.
Autrement dit, vous n'étiez pas en première ligne, vous ne partiez pas à l'assaut. Comment ça se passait pour vous ?
Alors nous, c'était différent puisque nous étions une unité combattante, mais étant au casernement, nous devions monter la garde un soir sur deux, 4 heures de RIF avec harquis. Et puis on partait quand même de temps en temps en recherche systématique de traces, c'est-à-dire qu'on partait avec 2 6-6 complètement dans le désert, et recherche systématique de traces, c'est-à-dire qu'un homme blanc était assis sur l'aile avant gauche du 6-6, et c'est lui qui nous guidait et qui nous disait ici, tant de chameaux sont passés, tant d'hommes à pied. Et donc, on retrouvait la caravane quelques temps après.
Vous retrouviez la caravane ?
Eh oui, on retrouvait la caravane. Donc, ce sont des gens qui sont très proches de la nature, qui savent fixer sur le sable, pour que le sable, c'est quand même une matière vivante, et où j'ai appris à connaître un peu, et que j'ai appris à connaître un peu, pardon. Et ces hommes sont très, très proches, et nous, on n'avait pas la capacité qu'avaient ces hommes. C'est pas possible.
Donc, là, vous me parlez des hommes, et est-ce que vous êtes entré en contemplation de ce désert, de cette vie là-bas ?
Alors, le désert, il m'a appris une chose fort simple, c'est le silence. Ce silence où on aurait presque entendu les grains de sable rouler les uns sur les autres, puisque le Sahara, les dunes sont une matière vivante et suivant les vents, ben, les dunes avancent ou reculent, mais elles avancent plus tôt. Et c'est vrai, ça porte à réflexion.
C'est un silence qui est relatif, non ? Est-ce qu'on entend quelque chose quand les dunes avancent avec ce paysage mouvant ?
Le paysage est mouvant, mais aucun bruit. Aucun bruit, mais le paysage change sous la force du vent. Et je dis, on pourrait entendre rouler les grains de sable les uns sur les autres, mais ce qui est important, c'est la réflexion. Ça porte à réflexion, à certains jugements, à revoir la vie. Et de plus, au Sahara, on n'a jamais de nuit noire. Ça n'existe pas. On a toujours une espèce de clair de lune et on peut apercevoir une silhouette à 20, 30 mètres. On apercevrait facilement ça.
Donc le Sahara est sans cesse baigné de lumière ?
Il est baigné énormément de lumière la journée et la nuit, sous un clair de lune, sous une certaine clarté due à la lune et aux astres, puisque les Bédouins se fient énormément à la voûte étoilée. Et c'est vrai que, et je redis encore, ça porte à réflexion parce que ça permet à l'être humain d'étendre sa pensée vers d'autres horizons que le Sahara. Cet horizon, on peut appeler ça l'horizon de la pensée humaine. Hein. C'est-à-dire que ça permet, sans bruit, en contemplant les astres, en étant à l'écoute, parce que si quelquefois une gazelle ou une hyène passe pas très loin, donc on peut entendre le sable glisser sous ses mouvements, mais ça porte vraiment réflexion au style de la vie humaine et de l'être humain.
Vous étiez en réflexion, Alain. Mais en réflexion sur quoi dans le désert ?
Eh bien, où j'ai le plus réfléchi et pensé le plus, c'est lorsque j'étais de garde, avec un harki, bien sûr, je l'ai dit précédemment. Et la réflexion se porte sur le pourquoi et comment. Pourquoi suis-je ici ? Est-ce que ma présence ici était valable ? Est-ce que ce que je fais est bien, ce que je fais est mal, mais surtout penser à ce que va être ma vie future et comment je l'envisage, et surtout penser ce qu'est l'être humain dans ce pays où c'est la guerre. Elle va se finir un jour, c'est certain, mais que ferai-je par la suite ? Surtout toujours mon métier, mais vais-je fonder une famille ? Vais-je avoir des enfants ? Mais ça va m'apporter, je pense, une certaine sérénité parce que j'avoue que ça m'a forgé ma pensée, bien qu'étant jeune comme tous, je pensais à faire des bêtises, à vivre ma vie comme elle devait être vécue à mon âge, mais ça m'a porté à réflexion sur l'être humain, sur son avenir qui irait peut-être pour certains avec tout ce qui se passe dans le monde entier. Aussi.
Est-ce que c'était une pensée fraternelle ?
Oui et non. Oui et non. Je pensais plutôt à ce qu'allait être ma vie, la vie des autres que j'allais côtoyer, des gens que j'allais côtoyer. La vie, c'est la mort, comme la naissance. La naissance, c'est la mort. Et je pense que ça m'a amené une certaine sérénité vis-à-vis de ce passage obligé pour tout être humain. Donc, ma réflexion était sur ce que j'ai, mon avenir. Et la réflexion que j'allais apporter sur mon avenir, ce que je pouvais en faire et vis-à-vis des autres personnes que j'allais côtoyer, dans mon métier déjà. Et puis peut-être qu'un jour je serai patron, je serai, je ne sais pas, on envisage tout, mais surtout ce qu'est l'être humain avant tout.
Alors, quand vous étiez dans le désert, est-ce qu'il y a eu des moments privilégiés ?
Le moment privilégié, c'était l'amitié entre les militaires, les militaires que j'étais, bien sûr. Et puis, je me suis lié d'amitié, il faut dire, avec des Arabes, avec les hommes, une certaine forme d'amitié et de sincère.
Lié à cette contemplation du désert aussi ?
Ah, bien sûr. Ça, on ne peut pas s'en passer. Je me souviens, en recherche systématique de traces, on couchait à la Belle Étoile. Et là, ça permet on se rend compte de l'étendue immense de ce sable, qui avance, qui bouge, qui reste pas inerte. Mais est-ce que le sable qui embrume notre pensée permet de s'évacuer ? Peut-être.
Alain, quand vous faisiez de la recherche systématique de traces, vous avez rencontré des bédouins. Qu'avez-vous vu ?
Eh bien, ça ne m'est pas arrivé toutes les fois, mais nous avons rencontré des bédouins, des nomades, des hommes bleus. Et j'ai eu l'occasion de boire le thé à la menthe avec eux. Ce sont des gens qui, méfiants, qui vous dévisagent, qui savent d'avance ce que vous avez dans votre cerveau, parce qu'ils sont tellement près de la nature et près de l'être humain qu'ils savent qui vous êtes et d'où vous venez. Et ce sont des gens qui vivent en communion avec le désert, qui se déplacent, qui vivent de rien, de tout. Et je pense que ce sont des hommes libres, mais plus que libres. C'est une liberté de liberté. C'est la liberté de la liberté. Et des gens qu'il faut côtoyer. Et je pense que si on avait pu les côtoyer plus longtemps, je pense qu'une grande amitié serait née.
C'est carrément presque quelque chose de mystique que vous avez vécu, une expérience intérieure forte. Et est-ce que dans les paysages que vous avez connus en France, par exemple les paysages de montagne, vous aviez le même point de vue ?
C'est différent, la montagne. La montagne, enfin, à mon avis personnel, moi, elle me fait peur. Je me sens petit, je me sens écrasé, je me sens pas à l'aise, parce que c'est une force naturelle importante. Le Sahara, c'est différent. On se sent à l'aise parce qu'on croirait sur une mer, une étendue simple, et qui permet la réflexion, comme la montagne, bien sûr. Ça, un vrai montagnard vous dira pas qu'il n'a pas de pensée importante vis-à-vis de cette forme, disons, terrestre, qui fait qu'elle vous domine. Le sable ne nous domine pas, c'est différent. Ça porte plus à la réflexion, pour moi, que la montagne.
Le désert vous est proche ?
Le désert m'est proche parce que je pense que j'ai pris la maladie du désert. Et je me souviens, tout gamin, j'avais quelques capacités à faire un peu de peinture. Et j'ai peint des paysages qui ressemblaient au Sahara. Et je me souviens qu'une personne était venue chez mes parents et m'avait dit « Ton fils a vu le Sahara ?» Et non, il n'y est jamais allé. C'est son imagination qui a travaillé. Et elle y travaille toujours.
Oui, c'est-à-dire que c'est une envie de désert que vous avez retrouvée, mais vous êtes retrouvé un peu chez vous, alors si vous l'aviez déjà, cette envie. Quand vous êtes retrouvé dans le désert, est-ce que vous aviez l'impression d'être un peu chez vous ?
Chez moi, sans être chez moi, mais j'ai une familiarité avec le désert qui est peut-être haute mes amis de campagne, mais je me sens bien dans le désert, je me sens très, 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 très bien. On avait une compagnie méhariste, donc j'ai fait un peu de chameau. Je sais diriger un chameau. Et j'ai fait quelques voyages au Maroc, en Tunisie. J'ai fait le sud tunisien et le sud marocain. Je me suis retrouvé avec des méharistes. Et je me suis permis, pendant le chameau, de partir avec. Mais vu mon âge maintenant, je ne recommencerai pas. Mais c'est vrai que quand je me suis retrouvé sur le sable, j'étais à l'aise. J'étais très, très à l'aise.
S'il y avait des couleurs ?
Il y a une continuité de couleurs infinie. On passe de la couleur sable, donc un beige très clair, un rouge, et on imagine un vert. Et puis, on imagine aussi des taches d'eau. Ce sont les mirages. Mais les couleurs, on les imagine. Elles ne sont pas là, mais on les imagine.
C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose que vous voyez, quelque chose que vous percevez, que vous ne voyez pas vraiment. C'est une impression en même temps, le désert.
Oui, c'est une impression. C'est le cerveau qui imprime et qui vous fait croire surtout, mais ce sont peut-être que des mirages, mais des mirages qui vous fortifient dans votre pensée et qui vous portent encore à réflexion.
Alors maintenant, qu'est-ce qui vous reste? Est-ce que vous l'avez encore en vous, ce désert, dans votre façon de vivre, d'envisager donc les situations?
Ben, j'envisage les situations avec un certain calme que je n'avais pas avant. Là, j'étends là aussi, mais le désert me manque. Le sable me manque. Et c'est vrai que si j'avais l'opportunité de pouvoir aller y mettre les pieds, ça ne me ferait rien de rester 8 jours dans un coin désertique. Je me sens à l'aise. Je n'ai pas peur. J'ai moins peur que si j'étais face à la montagne. Parce que c'est d'être... On pense que c'est plus dur d'escalader une montagne. Un sable, on ne l'escalade pas. On marche tranquillement, sereinement, en pensant.
Eh bien, chers amis auditeurs, j'espère que vous aurez partagé cette traversée du désert et que ça vous aura fait méditer. Je vous remercie beaucoup, Alain.
Et c'est moi qui vous remercie de donner certaines pensées et attitudes que j'ai vis-à-vis du sable et de la vie actuelle, puisque la pensée travaille toujours autant.